Bonjour chers auditeurs, bonjour, merci d'être là malgré un calendrier et une température qui ne porte pas nécessairement vers la concentration. Mais vous savez, j'aime beaucoup ces quelques semaines, ces jours d'août, du début août chaque année. Paris est un peu plus calme. Ce qui me fait dire d'ailleurs que si nous étions moins nombreux, nous irions peut-être mieux. Dans tous les cas, Paris est adorable malgré l'extrême chaleur. Dans cette période, et j'en profite pour animer quelques émissions en direct et aller, comme on dit, au fond des choses, ce que je veux faire sur des sujets extrêmement graves, deux sujets au moins extrêmement graves. Aujourd'hui, avec quelqu'un que j'aime beaucoup depuis longtemps, que je connais de longue date, qui est le général Jean-Bernard Pinatel, général de deuxième section, mais en pleine activité, qui voyage et qui écrit et qui vient de publier, mon Dieu, il y a 3 semaines, j'ai eu à peine le temps de le lire. Et Dieu sait que la lecture est riche. L'ordre des forteresses nucléaires, je le montre à la caméra, peut-être faut-il que j'aille par là pour qu'on la voie. C'est vraiment un très beau livre, 380 pages aux éditions Caïrn, qui sont denses et qui font le point d'abord sur à peu près tous les grands sujets géopolitiques de l'heure, avec des annexes, il faut aller jusqu'aux annexes, très importantes, notamment une des dernières annexes sur les relations entre la Turquie et la Russie. Bon, il faut le lire jusqu'à la page 392, jusqu'à la dernière page, ce livre, et il est très costaud, comme on dit, et il aborde aussi une des questions les plus graves qui soient. J'ai l'impression que le risque nucléaire qui, pour le commun des mortels, et en France notamment, a été, et était fait d'ailleurs pour être assez théorique, et de moins en moins théorique, et de plus en plus réel, ce qui donne froid dans le dos. Vous me direz, dans cette période, on a plutôt envie d'avoir froid, mais pas nécessairement dans le dos, parce que vraiment, nous jouons avec le feu nucléaire. Bonjour mon général. Vous m'entendez en général? Oui, il faut que les choses m'en
cassent. Oui, je vous entends très bien.
Vous êtes dans la fraîcheur, vous, à Biarritz, je pense.
Oui, on a 23 degrés cet après-midi.
Et vous êtes près de la mer.
Mais on est dans la sécheresse. On est quand même dans la sécheresse.
Mais je crois que vous avez une très belle maison. Est-ce que vos arbres qui dominent la mer, est-ce que vos arbres sont en bon état, en général? Oui.
Oui, parce qu'il a beaucoup plu durant cet hiver et on avait des nappes phréatiques début juin affleuraient le sol. Et donc mes chênes qui ont 200 ans d'âge, là j'en ai 25 dans ma propriété, sont en parfait état.
Bon, ça ne m'étonne pas de vous parce que j'ai l'impression que tout est en parfait état avec vous. Je suis très heureux de vous retrouver, je dis retrouver parce que nous avons fait une très bonne conversation pour TVL il y a 2 ou 3 ans, on peut s'y reporter, on y découvrira votre vie, qui est une vie absolument extraordinaire. La vie d'un général, déjà, c'est toujours, c'est souvent assez intéressant, pas toujours, mais enfin, vous avez accumulé les raisons d'écrire, de réfléchir sur la marche du monde. Vous êtes un des plus clairs, en tous les cas, connaisseurs de la géopolitique et en même temps des intérêts de la France. On peut se reporter aussi à vos mémoires qui s'appellent « L'esprit guerrier », publié il y a 2 ans, je crois, aux éditions Ballan. Et ces mémoires, il y a un petit côté moral, il y a une morale dans vos mémoires, un art de vivre d'une certaine façon, de réfléchir au monde et de le comprendre. En voyageant beaucoup, notamment, je suis stupéfait par la quantité de voyages que vous aurez fait, mon Dieu, et de métiers, parce que un général peut faire d'autres métiers, en fait. C'est toute votre vie.
Parce que j'ai fait, en fait, 31 ans de carrière militaire. J'ai été nommé général à 49 ans.
Très jeune, oui.
Et malheureusement, ma première épouse
comme de Gaulle.
Est décédée.
Il a été nommé général à 49 ans aussi. On dira peut-être un mot de la bataille de Gaulle. Je voudrais dire un mot de ce film aussi. Vous m'y ferez penser, mon général. À la fin de l'émission. Oui. Oui, pardon, je vous ai coupé.
Oui, très bien.
Vous avez été nommé général à 49 ans.
Parce que j'ai eu deux carrières. Donc, ma femme est décédée d'un cancer quand j'avais 50 ans. Et j'ai quitté l'armée pour m'occuper de mes trois jeunes enfants. Voilà, donc, je suis rentré dans le groupe Bull parce que je pensais que l'informatique allait dominer les prochaines années. J'ai appris à développer des logiciels et j'ai créé en 94 une société de logiciels qui est devenue un petit leader mondial et que j'ai revendu en 2006 au leader mondial des bases de données LexisNexis. C'était une couche d'intelligence qu'on mettait sur les bases de données pour pouvoir faire des demandes en n'importe quelle langue, voilà. Donc parallèlement j'ai une autre société qui était conseil au développement des grandes entreprises françaises dans les pays à risque. Alors voilà, c'est pour ça que par exemple je connais bien la Russie parce que j'ai installé pratiquement toutes les grandes entreprises françaises en Russie, que ce soit de Total à Michelin, la Société Générale, Auchan, Sanofi. Effectivement, c'est cette partie-là de mon intérêt qui m'a amené à voyager beaucoup. Voilà, et je continue puisque l'année dernière, j'étais en Israël.
Oui. Alors, notamment, vous avez eu faites bien en parler, vous avez eu un privilège en Israël. Je pense que vous avez eu un entretien très intéressant avec de très hautes autorités israéliennes, je crois, notamment pour refaire l'histoire du terrible épisode de Gaza que vous relatez d'ailleurs dans cet ouvrage dont je parlais. Le dernier, pas vos mémoires, L'ordre des forteresses nucléaires, celui qui vient de paraître. Je ne sais plus qui vous avez rencontré, le chef d'état-major de l'armée israélienne, je crois.
Oui, j'ai rencontré les trois chefs d'état-major, les patrons des forces spéciales. Moi, j'ai fait une découverte. Là encore, vous savez, ce n'est quand on va sur le terrain qu'on comprend vraiment les problématiques. Et c'est pour ça que je suis allé en Irak juste avant que l'État islamique s'empare de toute la partie nord de l'Irak, etc. Donc, que je suis allé en Iran récemment invité par le conseiller géopolitique guide, ce n'est qu'en étant sur le terrain que l'on comprend vraiment les problématiques et qu'on retrouve des faits qui vous amènent à modifier vos opinions. Alors sur Israël, évidemment, moi ce qui m'a marqué, c'est plusieurs points. Premièrement, Israël vit en état permanent, si vous voulez, d'alerte. Avec sept fronts dans lesquels il se bat face à sept fronts. Alors, on pourra les lire. Et c'est une population, en fait, 9 millions de personnes, dont 2 millions de Palestiniens. Et quand vous posez des questions, pourquoi vous faites ça, et probablement pourquoi il y a eu le 7 octobre, c'est parce qu'on vous répond toujours, c'est parce qu'on n'a pas assez d'hommes. Et donc, si Israël développe beaucoup de technologies, c'est pour compenser le manque d'hommes. Donc,
et d'ailleurs, vous dites quelque chose de terrible. C'est d'autant plus grave que les hommes comptent, chaque homme compte en Israël, alors qu'en face, la conception du monde et de la vie est telle que, vous avez une phrase, je ne peux pas la retrouver, je ne sais plus où, absolument terrible.
Absolument.
Le combat et la mort au combat ne sont qu'un point de passage d'une vie qui est complètement mêlée à la destinée de la religion. Donc, la mort n'a pas le même sens.
Non, c'est tout à fait. Nous souhaitons avoir une belle vie. Eux, ils souhaitent avoir une belle mort.
Oui, c'est ça. Voilà. Voilà une de vos formules. Voilà, très bonne formule.
Formule. Mais
alors, ça donne à entendre d'ailleurs que les jours d'Israël sont peut-être comptés, parce que l'absence d'hommes et le souci de. Vous le dites d'ailleurs, il faudrait qu'ils soient tous des héros.
Non, justement, tout ce qui se passe actuellement et que les gens ne comprennent pas est lié au nucléaire. D'où d'ailleurs le titre
sauf,
de mon
sauf
livre.
Sauf au recours à l'arme nucléaire.
Alors oui, parce que Israël
a 90
Oui, à 90 armes nucléaires. Et moi, je pense que si Trump est intervenu si fortement, alors en Iran, c'est pour éviter que Israël utilise en premier l'arme nucléaire. Alors, deux mots pour donner bien le
Alors, si
cadre.
vous ne vous rendez
Aujourd'hui, il y a
pas,
neuf
je ne
puissances
comptais pas du tout
nucléaires.
partir sur ce sujet, mais
Ah bon,
allez-y,
d'accord. Mais
allez-y,
alors,
allez-y. Nous en sommes à
oui.
ce
Alors,
sujet. Partons sur
finalement,
l'arme nucléaire, si vous voulez.
il y a neuf puissances nucléaires dans le monde. Il y en a deux qu'on dit qu'ils ne l'utiliseraient pas en premier, c'est la Chine et l'Inde. Toutes les autres ne se sont pas engagées à ne pas utiliser l'arme en
Y
premier.
compris la France.
Et y compris la France, y compris Israël, même si ils n'ont jamais communiqué, c'est au travers de différents centres de recherche stratégiques qu'on pense qu'ils ont environ 90 armes. Voilà. Et donc,
Et vous dites que l'emploi de l'arme nucléaire par
pourquoi?
Israël est d'autant plus possible que c'est l'arme ultime en face de populations à la fois nombreuses et pour lesquelles la mort n'a pas grande importance, et que donc l'ultima ratio, c'est la technologie et l'arme nucléaire en
Voilà.
l'occurrence.
Et bien entendu, Israël ne peut pas permettre à l'Iran. Alors, il faut bien voir que l'Iran et ses différents proxys se sont donnés comme mission d'éradiquer le foyer juif de Palestine. Que ce soit le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, tous ces
Ou
gens-là
l'Iran.
ont dans leur charte, et l'Iran aussi. Alors, pourquoi? D'où vient cela? On ne comprend pas. C'est que vous savez, vous avez deux grandes tendances dans l'islamisme. Vous avez la tendance wahhabite, par exemple, l'État islamique en Irak. Est des islamistes qui veulent la pureté de l'islam. Et donc, tous les déviants, par exemple les chiites, doivent être éliminés. Alors, les chiites, ils les appellent les polythéistes, ce qui est exact. Et donc, alors que pour eux, il n'y a que Dieu, et même Mahomet n'est qu'un prophète. Donc, si vous voulez, on a le droit d'admirer Dieu, que Dieu, tandis que les chiites, admirent les différents imams, y compris l'imam occulté, et vont faire des pèlerinages sur leur tombeau. Voilà, donc autant l'État islamique veut la pureté de l'islam, autant les frères musulmans qui ont été créés par Obama en 1933 en Égypte veulent rassembler au contraire toutes les tendances de l'islam en vue de chasser les Occidentaux du Moyen-Orient et éradiquer le foyer juif qui
Oui, en
était en train
réalité,
d'être installé.
éradiquer le foyer juif, mais comme figure d'un Occident qui est indésirable dans l'ensemble de la région. C'est ça, les frères musulmans. C'est
Exactement.
ça, oui.
Et ce que l'on ne sait pas, c'est que Roménie est un musulman. De même, Ben Laden était un frère musulman. Voilà, donc ce sont des gens qui ont été éduqués avec cette notion-là. Et donc, c'est pour ça qu'en Iran, alors, il y a deux tendances fortement en Iran, il ne faut pas simplifier les choses. Vous avez une tendance qui ne voulait pas l'arme nucléaire, parce que, si vous voulez, et le guide suprême a fait une fatwa, parce que, effectivement, c'est contre la nature. Alors, dans la religion islamique, on n'a pas le droit de changer la nature qu'a voulu Allah. Donc, il y a une fatwa contre l'arme nucléaire, mais depuis que les gardiens de la Révolution contrôlent en fait l'Iran, ils ont relancé cette course à l'arme nucléaire, et l'AIEA, qui est l'Agence internationale pour l'énergie atomique de Vienne, a lancé en décembre 2024 une alerte en disant que les Iraniens accéléraient d'une façon extraordinaire l'enrichissement de l'uranium jusqu'à 60%. Ensuite, ils ont lancé deux alertes dans les premiers trimestres de 2025, qui ont entraîné la première intervention américaine et israélienne de juin, de façon à au moins détruire l'accès à ces sites nucléaires.
Alors, mon général,
Et
excusez-moi,
ensuite,
attendez.
il y a
Oui.
eu.
Poursuivez,
Oui.
mais vous partez sur un sujet alors que je voulais partir sur bien d'autres et que je n'ai même
Et
pas
donc,
fini de vous présenter.
c'est tout à fait
Mais
important.
finissez, si vous
C'est tout à
voulez.
fait important si on veut comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient. Tout
Oui.
le monde nous parle du détroit d'Hormuz, mais les Américains s'en fichent du détroit d'Hormuz. Ils n'importent pas 1% de leur pétrole du Moyen-Orient. Ils sont même exportateurs. Donc, si Trump, d'ailleurs, contre sa base MAGA, est intervenu, c'est pour éviter probablement qu'Israël utilise en premier l'arme nucléaire. Et donc, a voulu stopper les recherches, en tout cas, interdire, quoi, parce qu'ils ne pouvaient pas, probablement, ils sont tellement installés au profond, détruire les laboratoires, mais détruire tous les accès et donc retarder le plus
Alors, j'ai
possible
plusieurs questions à vous
l'accès
poser.
de
D'accord,
l'Iran à l'arme.
j'ai compris, mon général. Prenez le temps de respirer et donnez-moi le
Je vous
temps
en prie.
de vous poser quelques questions, parce que vous êtes parti. C'est très bien les conférences, mais c'est pas la formule de l'émission.
Non, 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 je vous en prie. Bon.
Alors, chemin faisant, vous nous avez dit ou confirmé, mais les Français ne le savent pas assez, qu'une partie notable, mais c'est un peu révolu maintenant, de la nomenclatura chiite iranienne, et je crois qu'il y a un décret, l'équivalent d'un décret de 2007 sur le sujet, a ordonné la fin des recherches nucléaires. Ça, c'était assez intéressant, pour des raisons d'ailleurs religieuses, comme quoi
Totalement,
l'aspect
totalement.
géopolitique ou guerrier peut être dominé dans cette civilisation, dans la nôtre, en tous les cas aux États-Unis, on n'en a pas même l'idée, par des impératifs spirituels. Ça, vous confirmez ça?
Oui, je confirme
Oui, voilà.
absolument. Mais le problème, c'est qu'en Iran, aujourd'hui, le
Mais c'est
pouvoir
fini,
n'est
oui.
pas aux religieux,
Voilà,
il
c'est ça.
est aux gardiens de la révolution. Et les gardiens de la
Qui, eux, n'ont pas ce
révolution, ils savent que
scrupule.
là. Alors, oui, bien entendu. Et pourquoi, moi, quand je suis allé en Iran, et j'en ai beaucoup discuté avec Velayati, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui est le conseiller géopolitique du guide, il m'a dit, nous, on n'a pas pu empêcher les gardiens de la Révolution de vouloir recommencer les recherches nucléaires, parce que c'est l'exemple de Kadhafi. Kadhafi a stoppé son programme nucléaire sous la pression internationale, et un an après, il était liquidé. Et donc, le régime qui est tenu par les frères musulmans sait que l'arme nucléaire, c'est la survie de ce régime. Or, les frères musulmans contrôlent, quoi, du moins, contrôlent énormément le pays, et compris sont riches, etc., quoi. Donc, si vous voulez, l'Iran, aujourd'hui.
Vous écrivez quelque part, et c'est assez vertigineux, que sans, comment peut-on dire, l'éradication, en tout cas la mise au pas, si c'est possible, des frères musulmans, il n'y aura jamais de paix dans cette région du monde. Vous dites très clairement que c'est en insistant beaucoup sur les
Oui,
frères musulmans que c'est le prérequis indispensable pour parler de paix. Et pourtant, j'ai une
mais bien
question.
entendu, parce que
Allez-y,
les
allez-y.
Wahhabites, les Wahhabites, ils font d'abord la guerre aux déviants musulmans. C'est pour ça qu'en Irak, si vous voulez, l'État islamique a tué beaucoup plus de musulmans que d'Européens.
Oui.
97% des morts durant la guerre civile, quoi, qu'il y a eu en Irak, la prise de Mossoul, etc., ont été des musulmans.
Et vous ne vous faites
Parce
pas.
que pour eux, les chiites, puisque 60% des Irakiens sont des chiites, sont des déviants.
Il n'y a pas d'issue, écrivez-vous, à la confrontation au Moyen-Orient, tant que l'organisation des frères musulmans ne sera pas éradiquée partout où elle existe. Et pourtant, vous ne vous faites pas faute de dire, de rappeler que ces frères musulmans ont été très encouragés par les Anglais d'abord, les États-Unis ensuite. C'est un des paradoxes de ce constat.
Ah ben oui, ah ben bien entendu, si vous voulez, eux, ils avaient des intérêts qui étaient le pétrole à l'époque, et ça commençait par le Foreign Office qui a monté, quand Mossadegh s'est emparé du pétrole iranien,
En
ils ont fait
53.
la révolution contre Mossadegh en s'alliant avec les Mollahs. Voilà.
Voilà.
Et Mossadegh, qui était un nationaliste, contre le Shah également, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est à partir du moment où le Shah, dont l'armée était
C'est très bon
complètement
à rappeler ça. Très bon.
équipée, hein, oui, était équipée par les Américains. À l'époque, moi, j'étais au GPS, Centre de prévision
De
et
stratégie.
d'évaluation du renseignement. On était, si vous voulez, on ne comprenait pas pourquoi. Les Américains voulaient éliminer le chat, tout simplement parce que le chat avait pris une posture gaullienne. Au
Oui.
lieu de vouloir faire la guerre à l'URSS, il voulait maintenir une position d'équilibre entre l'Est et l'Ouest.
Il avait une politique nationale,
Voilà.
celle
Et
que ne
donc,
supportent pas les
ils
États-Unis.
ont refait, et voilà, et ils ont refait donc le même coup. Là, c'est la CIA, refait le coup, et même. Moi, je raconte parce que c'est une réalité. Le patron de l'OTAN est allé faire un tour des popotes de l'armée iranienne. Et elle leur a dit, si vous tirez contre les manifestants, eh bien, vous n'aurez plus de pièces détachées et de munitions.
Alors, on est
Voilà.
parti très vite sur le Proche-Orient, nous allons peut-être y
Oui, je vous
revenir.
en prie.
Laissez-moi, mon général, cependant, poursuivre ma présentation. Je voulais dire aussi que vous êtes un des principaux porte-parole de l'école réaliste en matière de géopolitique. Vous exposez les termes un peu épistémologiques de cette école réaliste dans votre excellente introduction, qui est vraiment très, très précieuse. Moment de dire d'ailleurs que vous avez fondé avec notre amie commune Caroline Galacteros Géopragma, qui est un institut qui lui aussi donne beaucoup d'informations et d'analyses grâce à vous, grâce à Caroline Galacteros et quelques autres, qui permettent à une école française réaliste de surnager un peu en face des idéologues. Qu'est-ce que c'est que les réalistes? C'est ceux qui voient les réalités, qui les analysent. Vous dites d'ailleurs. Vous donnez les règles. Il faut connaître d'abord la réalité, c'est-à-dire sa propre réalité, inventorier ses moyens, inventorier ses intérêts, et ensuite inventorier les réalités des autres, des principales puissances, leurs moyens respectifs, leurs intérêts respectifs, tout ça placé à l'aune de la géographie, qui est une science exacte, et de l'histoire, qui devrait l'être aussi. En tous les cas, très loin de l'idéologie. Alors évidemment, vous en prenez, mais enfin, vous rétablissez l'honneur, si on peut dire, à vous tout seul, à quelques généraux de plateau qui, eux, versent tout le temps dans l'idéologie, savent très bien qu'ils sont sur les plateaux en question, parce qu'ils servent la soupe, quoi, à la puissance du jour, c'est-à-dire au fond, à l'OTAN et aux États-Unis. Et ça, c'est très intéressant parce que cette école réaliste, elle nous permet de voir ce que nos oreilles, tout au moins d'entendre ce que nos oreilles n'entendent jamais, et les constats sont très durs et il est temps de les faire. Alors, si vous voulez bien, ordonnons notre conversation autour de deux idées. On a commencé à effleurer l'idée absolument centrale et qui est celle, au fond, qui court à travers tout ce livre, l'ordre des forteresses
Ce livre,
nucléaires.
l'ordre des forces.
Il y a un risque nucléaire croissant. Et vous analysez les puissances nucléaires les unes après les autres, dont la France, par laquelle vous finissez. D'ailleurs, c'est très intéressant, nous y arriverons tout à l'heure. Et on a l'impression que, bon, il y a deux ordres de forteresses nucléaires. Il y a les trois principales, Chine, Russie, États-Unis. Et puis, il y a derrière trois autres qui ne sont pas secondaires, la Britannique, l'Inde et la France. Et ensuite, il y a celle qui indique, mais c'est aussi le cas qui donne à entendre qu'ils n'utiliseront pas l'arme nucléaire en premier emploi. Donc on peut serrer ces différentes catégories. J'aimerais que l'on fixe bien, parce que c'est ça aussi votre école de pensée. Vous faites référence à Lucien Poirier, au général Beaufre, à Pierre Galois, ce qu'on a appelé, je crois, avec le général Ayré, que vous ne citez pas d'ailleurs. Et qui a
Oui.
disparu dans des conditions un peu curieuses,
Lui
les quatre chevaliers de l'Apocalypse, c'est ceux qui ont donné la doctrine
il est témoin
d'emploi.
théoricien que. Oui,
Oui,
il est témoin
moins
que
théoricien, oui.
le. Oui, moins théoricien que maître d'œuvre.
Oui, mais enfin, c'est quand même lui qui, quand il dirigeait le SGDN, je crois, ou l'IHEDN, pardon, excusez-moi.
Non, il s'occupait des essais, notamment il chapeautait tout ce qui était
Oui.
la force nucléaire naissante.
Et il avait lu en 1966 une conférence qui était dictée par l'Élysée, il faut bien le dire, qui s'appelait, se restait célèbre sous le nom de tous azimuts. Il avait expliqué que la doctrine d'emploi
Absolument.
française était tous azimuts et pouvait aussi bien viser les États-Unis si les intérêts français l'exigeaient. Et quelques mois plus tard, son avion a explosé au large de Madagascar. On s'est toujours demandé s'il y avait un lien, je crois qu'il y avait un lien. Bref, c'est votre ligne que de continuer l'œuvre alors très très puissante de Lucien Poirier, du général Beaufre et de Pierre-Marie Gallois, qui était un habitué, d'ailleurs, je le signale, de Radio Courtoisie et que nos auditeurs, certains d'entre eux, ont beaucoup
Ils
suivi.
sont des gens que j'ai bien connus et que j'ai
Oui.
beaucoup admirés.
Oui.
Et qui m'ont accepté dans le Cénacle parce qu'à l'école de guerre, si vous voulez, en fait, moi, pour sortir dans les premiers de Saint-Cyr, j'avais passé un certificat de mécanique générale à Rennes qui me donnait des points
Ah
supplémentaires.
oui.
D'ailleurs, des points supplémentaires équivalents à ce que me donnait d'être dans l'équipe de rugby de Coëtquidan. C'est d'ailleurs la tête. Jambes, si vous voulez. Et donc, après 6 ans dans les parages, j'ai attrapé par ceci, on m'a envoyé à la faculté d'Orsay, passer une maîtrise de physique nucléaire. Puis, j'ai été, après mon temps de commandant, encore dans les parachutistes, je me suis retrouvé sur le pont du De Grasse à Mururoa, où j'ai assisté pendant 3 ans à ce tir nucléaire. Voilà. Donc, je suis encore un des derniers. Aérien, un des derniers témoins qui peut parler de ce que c'est l'arme nucléaire quand elle explose et ne pas avoir qu'une vision intellectuelle de l'arme nucléaire. Donc on change de monde avec l'arme nucléaire et je peux vous assurer, j'étais à 6 miles
On
du
change de
point
monde, oui,
zéro sur le pont du De
l'expression
Grasse.
est juste, oui. On change de monde, oui.
Ah oui, absolument. On change de monde. Je peux vous assurer que le bruit qui vous arrive, d'abord, vous avez la chaleur qui vous arrive à 10 km sur le dos. Alors, il y a le flash, mais là, on était retourné, après, on
Oui.
se retournait. La chaleur qui vous arrive, puis après, le bruit et le souffle à 10 km, c'est effroyable. Donc, si vous voulez, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit mon premier livre durant l'école de guerre. Alors, on nous faisait faire la guerre en bombardant les Russes. Les soviétiques d'armes nucléaires et on en recevait nous aussi. Moi, j'ai dit, c'est pas vrai. Dès qu'il y a une première arme nucléaire sur le théâtre, ça s'arrête. D'ailleurs, les Japonais, ils se seraient arrêtés après Hiroshima et Truman a donné un coup de sécurité avec Nagasaki, on lui a reproché.
Oui. Alors,
Voilà, donc on ne peut pas faire la guerre nucléaire, ça n'existe pas. On peut détruire tout, oui, mais.
et pourtant vous dites que il est faux de croire que l'emploi est théorique et qu'il pourrait bien un jour
Ah mais l'emploi n'est pas théorique. Par exemple, les Russes ont très bien dit
russe
si
ou
une attaque classique mettait en cause nos intérêts vitaux, ils parlent d'intérêts essentiels, eh bien on utiliserait l'arme nucléaire sur le théâtre d'opération.
La France l'a dit d'ailleurs,
C'est
Nedjko
clair.
Vlček, notamment par l'intermédiaire de ce général Ayrey et de sa conférence tous azimuts.
Voilà,
Mais voilà.
et nous-mêmes, si vous voulez, on avait prévu l'arme nucléaire tactique. Si les divisions soviétiques arrivaient aux lisières de l'Hexagone, on puisse tirer l'arme nucléaire tactique en Allemagne.
Voilà,
Et moi,
un
j'étais
sujet
commandeur
passablement
région en Allemagne,
explosif.
en plus.
Alors, donc, je voudrais qu'on passe en
Voilà,
revue,
donc.
qu'on passe en revue parmi les 9 puissances nucléaires. Alors, chacune est abordée
Oui.
à tour de rôle dans votre livre, on ne peut pas toutes les aborder. 3 puissances qui pourraient les utiliser justement en premier emploi, les États-Unis, la Russie et puis la France. En sachant que la Chine, on peut en dire un mot, est moins susceptible de
Alors,
l'utiliser.
la
C'est
Chine
la
et
Chine
l'Inde
et
se sont
l'Inde.
engagées
C'est purement
à ne pas
défensif.
l'utiliser en premier.
C'est ça. Alors,
Purement
avance.
défensif. La Russie du temps des Soviétiques s'était engagée aussi. Mais en
Pas Poutine.
1980,
Oui.
Poutine
Oui.
a modifié ce, la stratégie nucléaire, et il a eu raison, parce qu'il était à l'époque excessivement faible sur le plan classique.
Oui. Alors, nous allons passer en revue ces trois puissances nucléaires, leurs intérêts, leur situation, leurs moyens. Mais auparavant, je vous ai demandé quel morceau de musique vous aimeriez faire entendre à nos auditeurs. Et vous en avez, ça sera l'occasion d'écouter un bobino. Et vous avez choisi Le cœur des esclaves de Nabucco, le célèbre opéra de Giuseppe Verdi. Vous allez nous dire pourquoi avant que nous l'écoutions, peut-être?
Parce que ce chant me transporte, et si j'avais commandé la division parachutiste que je voulais, si je n'avais pas eu le décès de ma femme, que je voulais aller commander, je m'étais organisé pour pouvoir le faire, ben j'avais l'idée de rassembler la division parachutiste comme on l'avait déjà fait pour la présenter à Giscard d'Estaing en 1980.
Oui.
En septembre, au Mont de Saint-Michel 80, et de faire jouer donc le cœur des esclaves. Voilà.
Bon.
C'était mon rêve personnel.
Écoutons ce chant des esclaves qui accompagne l'un de vos rêves personnels, mon général, et nous nous retrouvons après un bobino.
Vous êtes près de 2 millions à nous écouter, mais moins de 20 000 à donner. Pourtant, la gauche veut nous bâillonner, la gauche veut nous tuer. Répondez avec 1 euro. 1 euro pour garantir vos idées. 1 euro contre la censure. 1 euro pour rester libre. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris. Par avance, merci.
Alors, on a envie, bien entendu, de continuer à écouter, mais chacun, il est loisible à chacun de le faire de son côté. Nous vous avons accompagné dans cette écoute, mon général Jean-Bernard Pinatel, qui vous rappelle des souvenirs de général parachutiste, que vous êtes avant tout un para. Et je ne résiste pas à une question, avant d'en venir aux trois grands sujets que j'annonçais tout à l'heure, à une question qui m'avait beaucoup amusé dans les conversations que vous nous avez accordées pour TV Liberté. Vous nous avez raconté dans quelles circonstances, c'est le secret de votre extraordinaire et longévité et intrépidité, car les deux sont vrais, vous êtes devenu végétarien. Racontez-nous cette anecdote, mon général.
Alors, je ne suis pas devenu végétarien, c'est-à-dire que j'ai diminué la consommation de viande et de steak au poivre et de frites.
Je croyais que vous l'aviez arrêté.
Si vous voulez,
je croyais que vous l'aviez arrêté. À la suite d'un marathon,
non,
c'est
non,
ça
non, 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 non. Non, non, parce qu'il me faut des protéines. Vous comprenez, quand je continue à faire des trucs. Non,
bon.
Je mange des œufs, mais je mange aussi, si vous voulez, de la viande comme le poulet, etc.
Voilà, bon.
Donc, mais je,
ça s'est passé lors d'un marathon, c'est pas ça, une course à laquelle vous participiez.
Ah oui, ça s'est passé,
racontez-nous ça, c'était très amusant.
Ça s'est passé au cours d'un marathon, quand j'étais à la 11e DP, j'étais chef du bureau emploi plan renseignement, et on avait ont participé au marathon qui a eu lieu sur le long du canal du Midi. Et effectivement, on s'entraînait pour faire ces 42 kilomètres. Et à mon premier marathon auquel je participais, je me fais doubler par une magnifique femme rousse qui va plus vite que moi. Donc, si vous voulez, je m'accroche derrière, qui dit quitte à souffrir, autant avoir un spectacle, d'autant plus qu'elle avait un t-shirt qui moulait bien ses fesses. Donc, bon. Je la suis. Et au bout de 3h30 de course, j'arrive. J'arrive juste derrière elle. Et je lui dis
par
bravo,
politesse,
mademoiselle.
Par politesse.
Oui, je lui dis bonjour, mademoiselle, vous m'avez fait souffrir. Elle m'a dit oui, je vous ai entendu souffler comme un bœuf ou je ne sais pas quoi. Elle me dit quelque chose comme ça. Et elle me dit qu'est-ce que vous mangez ? Ben, je lui parle steak au pois, frites. Elle me dit écoutez, je suis nutritionniste. Et elle prend un stylo et elle me dit appelez-moi et vous verrez, vous allez, si vous me téléphonez. Vous allez
c'était
faire des progrès.
C'était une ruse pour vous revoir, mon général. C'était une ruse. Elle voulait vous revoir.
Hein?
Elle voulait vous revoir.
Oui, mais non, mais alors,
pour vous donner son numéro de téléphone,
alors,
tout le monde a compris.
Comme j'étais un homme de renseignement, je me renseigne quand même parce que j'étais marié.
Ah,
je
oui.
me suis aperçu que cette femme aimait les femmes et qui était d'ailleurs la nutritionniste Dania Navratilova, qui était elle-même. Elle-même était la championne de tennis, mais n'aimait pas les hommes. Voilà. Donc, je suis allé la voir, mais sans espoir.
Tant pis pour elle, tant pis
voilà,
pour elle.
Voilà.
Bon, alors donc, elle vous donne un régime qui vous a rendu d'une santé de fer, qui vous a donné une santé de
gagné,
fer.
J'ai gagné 100. Oh, la fois suivante, j'ai gagné sans souffrir 10 minutes. Au marathon suivant. Voilà.
Bon, alors, on se reporte à notre conversation sur TVL où vous donnez votre diététique.
Je continue à manger juste ce qu'il me faut de protéines, beaucoup d'œufs et de la viande blanche. Voilà,
et beaucoup de légumes et de fruits. Voilà. Bon, alors, mon général, attaquons, il ne nous reste hélas qu'une petite demi-heure.
Oui.
Attaquons ces trois grands sujets, ces trois grands pays, États-Unis, Russie et puis France pour finir. États-Unis. Allez-y. Mais il faut.
Oui,
est-ce que
après
là, vous m'autorisez à rappeler ce que vous écrivez. J'essaie de résumer plusieurs de vos pages qui sont très intéressantes. Vous énumérez les coûts que les États-Unis ont reçus en 25 ans, qui sont assez vertigineux. Vous dites à partir de 1989-90, les États-Unis avaient une suprématie mondiale indiscutable. Et cet hégémon a était à son pic vers l'an 2000. Et puis, en 25 ans, cette hégémonie a pâli. Elle pâlit, on peut partir de là, si vous voulez, elle pâlit régulièrement. Il y a d'abord la puissance chinoise qui monte, qui fait une sorte de sans-faute. Il y a aussi le fait que le coût moral que représente 2001, l'explosion du World Trade Center a été assez a troublé certainement l'opinion, et d'ailleurs la société américaine n'est pas une société très unie, elle était extraordinairement découragée en partie et violente d'une certaine façon. Suivi de l'affaire d'Afghanistan et de l'échec en Afghanistan qui rappelait l'échec au Vietnam, l'échec en Iran, il y a aussi une sorte, là on va y venir, l'échec en Irak, pardon, il y a aussi alors le problème que vous abordez de multiples façons, le problème de l'Ukraine, que vous avez déjà abordé dans un autre ouvrage. Les États-Unis sont tenus en échec en Ukraine, quoi qu'on dise, et ils le sont encore plus en Iran. Est-ce qu'on peut reprendre tout ça ? La situation des États-Unis est-elle à ce point contrariée que l'arme nucléaire devient possible comme ultime recours
pour garder l'hégémonie ? Mais il faut surtout comprendre. Et vous avez raison d'avoir rappelé que effectivement les États-Unis ont été dominés à partir de 2000 par des néoconservateurs qui voulaient maintenir la primauté des États-Unis et qui pour la première fois, si vous voulez, n'ont pas, on peut dire de 1947 jusqu'à 2000, toutes les interventions importantes étaient sous l'égide de l'ONU. À partir de là, Ça a commencé en 99 avec
Kosovo,
Belgrade.
À Belgrade.
Ils sont allés en Irak en montant au monde sur la possession d'armes de destruction massive de Saddam Hussein. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les Russes ont fait pareil, c'est-à-dire ils sont intervenus en Syrie, ils sont intervenus en Géorgie, et puis maintenant en Ukraine. Donc, on change de monde, et aux États-Unis, ce changement de monde a été très bien perçu par les conservateurs américains, et notamment par le mouvement MAGA. Mmh. Et le mouvement MAGA a dit, et d'ailleurs, le document qui est sorti en novembre de l'année dernière, qui s'appelle National Security Strategy, le montre bien, les Américains
ne voulons
plus être les maîtres du monde. Oui, nous voulons un document de 33 pages qu'on peut d'ailleurs télécharger sur la Maison Blanche.
Ah oui, mais c'est pas en anglais, c'est pas en français, hélas. Est-ce que je peux vous faire un petit reproche en passant, mon général ? Pardon, je vous coupe. Mais de temps en temps, vous faites parler des interlocuteurs, parce que vous vivez en deux langues. Vous, bien entendu, vous avez la tête dans les étoiles et dans le monde entier, donc un peu en anglais. Et des passages que vous citez en langue anglaise, imputable à des théoriciens ou à des responsables états-uniens, vous ne les traduisez pas. Alors, c'est le seul chagrin de votre livre. Vous pourriez traduire en langue française.
Oh, mais je l'ai traduit en général en notes, en bas de page.
Pas toujours.
Non, mais parce que effectivement, souvent, pour moi, l'anglais est, si vous voulez, c'est un langage plus militaire que le français, quoi. Vous voyez.
Ah mon Dieu,
donc,
c'est grave
quand
ça.
Vous voulez. Absolument, c'est très clair, parce que quand vous voyez que le patron de l'OTAN, le général Greenwich, dit dans une conférence « Russia not looking for conflict », c'est cinq mots « Russia not looking for conflict ». Et ça comment nous le dire en français, hein, voilà, donc
la Russie ne veut pas de la guerre.
De très fort. D'ailleurs, dans les parachutistes, quand on met le vert, on nous dit go. Parce que plutôt que partez ou sauter, go.
Ça va plus vite.
Vous voyez, bon. Donc c'est un langage. Bon, passons là-dessus. Revenir aux États-Unis.
Le mouvement MAGA
et Trump dit aujourd'hui nos intérêts vitaux sont l'hémisphère occidental, c'est-à-dire que l'on est prêt à utiliser l'arme nucléaire, et que ce que c'est l'hémisphère occidental pour eux, c'est du Groenland à la Patagonie.
Ça s'appelle
là,
l'Amérique.
Ça
s'appelle l'Amérique, en fait, c'est tout.
Oui. Voilà, oui. On interdit à tout autre État de prendre des intérêts importants. Et dès qu'il a été élu, une des premières décisions qu'il a prises et qui a fait rigoler tout le monde, c'est qu'il a rebaptisé le premier jour dans la centaine de décrets qu'il a pris, le golfe du Mexique, golfe de l'Amérique. Et ensuite, eh bien, le canal de Panama, dont les deux ports au bout, dont le port de Cristobal qui est à l'ouest, était tenu par les Chinois, il leur a dit « dégagez, autrement je vais vous faire dégager, les Chinois ont vendu ».
Ils sont partis, oui.
Ensuite, il s'est occupé du Venezuela. Et ensuite, il a dit « après le Venezuela, il y aura la Colombie, il y aura Cuba et il y aura le Groenland ». Voilà, donc pour eux, aujourd'hui, la forteresse nucléaire, c'est l'hémisphère occidental. Et pour le reste…
Enfin, l'hémisphère occidental, c'est le continent américain, c'est tout. Y compris le Groenland, qui fait partie du continent américain.
Ils appellent ça l'hémisphère occidental.
Oui, mais traduisons en français, c'est autre chose.
Oui, c'est le continent américain. Oui. C'est le continent Amérique du Nord, Amérique du Centre et Amérique du Sud. Bon, voilà. Et le reste du temps, d'ailleurs on le voit pour Taïwan, il a dit durant sa campagne, Taïwan ne fait pas partie des intérêts vitaux des États-Unis, et il a dit aujourd'hui, nous n'engagerons pas l'arme nucléaire contre les Chinois. Et il a demandé à tous les pays tout autour d'augmenter la dissuasion classique face à la Chine. Et si vous voulez qu'on vous aide en plus, ben il faut acheter nous les armements derrière. Donc voilà, pour les Américains ont renoncé à être les maîtres du monde. Voilà. Et ils ont que deux menaces aujourd'hui qui sont très bien exposées dans National Security Strategy, c'est la Chine, parce que la Chine, et ils le disent d'une façon tout à fait clair. Là, j'ai le thème exact. C'est un concurrent stratégique, stratégique compétiteur, je commence par le français, une puissance révisionniste, révisionniste power, et la Chine veut façonner un monde antithétique aux valeurs et aux intérêts US. Et pour cela, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pratique l'agression économique, elle se comporte comme un État prédateur, elle a une diplomatie de la dette et elle menace la base industrielle de la défense des États-Unis. Voilà, dans ce document, la Chine, c'est numéro un. Il n'y a pas de paragraphe concernant la Russie. Le mot « Russie » n'apparaît que quand il parle de l'Europe. Pour lui, la Russie n'est pas une menace et pendant toute la campagne électorale, il a critiqué Biden qui avait jeté la Russie avec l'affaire d'Ukraine dans les bras de la Chine.
Mais alors là, je vous arrête, pardon, mon général, par une question. Vous dites, on renonce à l'hégémonie mondiale, bien, ça c'était le projet des néoconservateurs qui a culminé aux alentours de l'année 2000 et qui était atteint, l'objectif était atteint à ce moment-là, vraiment, surtout au moment où la Russie était par terre et la Chine était encore plus ou moins sous contrôle, elle attendait de disposer d'armes, de technologies qu'elle n'avait pas encore. Maintenant, c'est bien révolu, et c'est une des mauvaises surprises des États-Unis, c'est que la Chine est passée à l'autonomie, pratiquement. Bon. Mais, vous dites, ils ont renoncé, mais j'ai appris ce matin que, hier soir, Kiev a été bombardée par beaucoup de drones qui ont été interceptés, parce que les Ukrainiens savent intercepter les drones, mais aussi beaucoup de missiles qui sont d'une puissance inégalée, car la Russie possède une technologie en cette matière qui est inégalée et n'a pas de défense anti-aérienne pour les neutraliser. Et qu'il y faudrait des armements, une technologie états-unienne, je préfère dire états-unien, excusez-moi, états-unienne. Or, les États-Unis les gardent car ils en manquent dans l'autre théâtre où ils sont très pris, c'est-à-dire l'Iran. Qu'ils ont renoncé parce qu'ils n'ont plus les moyens. Ils n'ont plus les moyens, mon général, de l'hégémonie mondiale.
Vous avez totalement raison. Pour eux, ils ont indiqué leur priorité. Leur priorité, ils sont without of weapons, donc sans armes, parce qu'ils ont consommé pour s'opposer à l'Iran dans le Golfe et face à Israël, énormément de patriotes, et donc ils veulent reconstituer leur stock pour l'armée américaine, ils veulent reconstituer les stocks d'Israël et les stocks de leurs alliés Arabie Saoudite, Émirats, Bahreïn, les Ukrainiens arriveront en numéro 4.
Oui, alors, voilà, en disant cela, on a l'impression qu'on condamne la résistance ukrainienne, pour parler de résistance ukrainienne. Mais l'Ukraine est condamnée avec des régimes pareils.
Les Américains l'ont dit, ils veulent, si vous voulez, pour l'Europe, ils disent pour l'Europe, le risque n'est pas la Russie, c'est une crise civilisationnelle.
Oui.
Voilà. Et ils disent au contraire, dans le National Sécurité Stratégie, ils disent nous allons au contraire faire de notre possible pour rétablir des relations de l'Europe avec la Russie. Et deuxièmement, nous engageons à ce que l'OTAN ne soit plus perçue, et nous allons le réaliser, comme une organisation qui veut toujours aller plus à l'Est. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont dit, rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, il n'est pas question.
Et ce qui condamne l'Ukraine,
tout simplement,
en réalité,
aussi. Et voilà, donc pour eux, ce qu'il y a de terrible, c'est que pour nous, nous sommes des idéologues, d'une manière générale. Mmh. Les Américains sont des pragmatiques.
Oui.
Quand ils ont vu qu'effectivement la Russie était prête à aller jusqu'au bout, y compris à utiliser l'arme nucléaire, ils ont dit, vous comprenez,
marche arrière.
Tous les pays européens, sauf la France, ont mis leur sécurité dans les mains des États-Unis. Voyez un petit peu le spectacle qui se passerait pour les Européens si la Russie utilisait l'arme nucléaire sur le théâtre ukrainien et que les Américains ne répliquaient pas nucléaire.
Oui.
C'est fini. Ça serait la panique générale en Europe.
Alors, il y a autre objection en général. Vous dites qu'ils veulent se désengager de ce qui n'est pas la protection de leur territoire de prédilection, c'est-à-dire le continent américain, on comprend bien, mais ils sont sans cesse, et c'est le drame de Trump en réalité, conduit à se réengager, ne serait-ce qu'au Proche-Orient, à cause du détonateur israélien.
Alors,
Israël est contraint à se réengager,
parce que la deuxième menace,
et à reprendre une claque, parce qu'ils ont pris une claque énorme avec l'Iran.
Mais parce que la deuxième menace est inscrite très nettement dans National Strategy Security, c'est l'islamisme. Il faut bien le voir, et la crise civilisationnelle qu'il dénonce en Europe est liée à l'islamisme. Et donc, il nous reproche notamment l'immigration. D'ailleurs, le Homeland Security, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Immédiatement, ils ont fermé leurs frontières, ils ont fait la chasse. Donc, c'est une révolution conservatrice très forte, le mouvement MAGA et Trump. Il y avait 1700 transgenres dans l'armée américaine, ils les ont fait sortir immédiatement. Peter Essek les a fait sortir immédiatement. Donc, on est dans une révolution conservatrice aux États-Unis face à un parti démocrate totalement divisé entre des extrémistes et des démocrates classiques. Et donc, les Américains, dans National Security Strategy, ils disent très bien, on va vous remettre l'Europe sur le droit chemin. On va utiliser tous nos moyens pour que cette crise civilisationnelle que vous vivez actuellement, on va soutenir les partis conservateurs.
Je vois bien qu'il va falloir prolonger notre conversation parce qu'elle touche presque à sa fin. Et j'aurais voulu, avec vous, parler de... Ce livre est tellement riche que j'avais 50 questions à vous poser. Par exemple, sur le détroit d'Ormuz, je ne vous ai pas arrêté tout à l'heure. Vous dites qu'au fond, les États-Unis s'en fichent parce que leur approvisionnement est peu concerné par le détroit d'Ormuz. En revanche, ils sont conduits à s'y intéresser parce que la Chine, elle, est assez dépendante de ce qui passe par le détroit d'Ormuz. Et justement, les États-Unis ne veulent pas en perdre le contrôle. C'est un point marqué, Hormuz, par la Chine contre eux, qui s'émancipe encore plus.
Bien entendu. Mais les États-Unis. Alors, il faut bien savoir que le problème, Hormuz n'est pas un problème pour les États-Unis. Le problème qui se pose vraiment dans la stratégie américaine, c'est Taïwan, et Taïwan avec le Japon. Parce que.
Le Japon qui flanche.
Oui, alors se réarme. Sanae Taikashi, si vous voulez, a...
Mais ils flanchent budgétairement, ils ont besoin de l'aide financière américaine. Depuis quelques jours, c'est très net.
Oui, mais surtout ce que elle a déclaré, c'est que Taïwan, si les Chinois prenaient Taïwan, ce serait une situation menaçant la survie, qui est un concept important pour le Japon, qui permet constitutionnellement au Japon de recourir à la défense collective.
Oui, mais est-ce que les États-Unis s'engageront jusqu'à l'arme nucléaire pour protéger Taïwan? Le pensez-vous?
Non. Et ils ont dit que non. Non, les Américains ont dit en dehors de l'Amérique, on ne s'engage plus à l'arme nucléaire. Et d'ailleurs, ils le disent clairement, ils demandent à tous les pays qui sont dans leur influence de remonter à 5% du PIB en classique.
Oui, oui. Alors, pour finir, quelques minutes par la France, que pensez-vous du projet de... Oui. Je crois qu'on en reparlera, il faudra que vous acceptiez une nouvelle émission en général. du projet dans la perspective des présidentielles, parce qu'on voit bien que votre livre aussi, il a quelque chose de très calibré pour les prochaines présidentielles. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour le montrer à l'écran.
Mais c'est bien pour ça que je l'ai écrit. C'est bien pour pouvoir
dans la perspective des présidentielles.
Le monde qui vient.
Oui. Et la France, est-ce que le projet du président Macron de mutualiser l'arme nucléaire vous paraît tant soit peu tenable?
C'est n'importe quoi.
Bon, voilà.
Si vous voulez, De Gaulle disait, à juste titre, à l'ère nucléaire, la défense est nationale. Qui prendrait le risque aujourd'hui de risquer une bombe nucléaire sur Paris pour sauver Tallinn?
Mais voilà. Donc nous sommes condamnés à la grandeur, nous sommes condamnés à la solitude stratégique et à la grandeur, c'est-à-dire à l'indépendance en réalité.
Mais on on considère et que les pays qui sont en limite de la Russie considèrent que la Russie est une menace, mais la dissuasion qu'il y a à faire vis-à-vis de la Russie, c'est une dissuasion de type classique. C'est-à-dire, mais le problème, c'est que les Allemands, ils n'arrivent plus à engager du monde. Les gens ne veulent, en Allemagne, ils ont beau mettre de l'argent pour avoir du matériel, il faut des hommes pour les servir. Donc c'est pour ça que la guerre d'Ukraine
Poussé.
va aller beaucoup vers une guerre de robots. On va
Est-ce
vers
qu'ils
une
vont
nouvelle guerre beaucoup plus.
que les États, l'Allemagne va tenter d'accéder à la technologie nucléaire? Voilà une question qui se pose aussi. Il
Ah,
faudra que nous en
je ne pense
reparlions.
pas. Ben non. Si vous voulez,
Il n'y a pas le droit,
on voit
mais.
qu'ils ont supprimé, quand ils ont supprimé leur industrie nucléaire et qu'ils sont obligés maintenant de remettre en marche leur mine de charbon, vous parlez pour
Ben, ils
les
peuvent remettre
écologistes
en marche
allemands, le nucléaire.
leur processus nucléaire, je crois aussi. Bon, mon cher général, hélas, hélas, trois fois hélas,
Oui.
nous allons reprendre rendez-vous pour le mois de septembre, parce que je tiens absolument à épuiser, on n'y arrivera jamais, les richesses de ce livre, L'ordre des forteresses nucléaires, le sous-titre, je ne l'ai pas cité, Le nouveau système mondial et le destin de la France. Vous voyez que nous avons encore des sujets à aborder. D'ici là, alors vous avez vu les deux films, La bataille de Gaulle, mon général?
Oui,
Oui.
absolument, mais évidemment.
Vous les recommandez? Je recommande à tout le monde d'y aller parce que
Ah,
c'est.
je les recommande, et surtout, si vous voulez, moi j'ai adoré le second, quoi,
Ah, mais il faut voir le
encore
premier
plus que le
d'abord.
premier,
Oui.
parce que, hein, il faut voir le premier, bien entendu, mais
Oui.
j'ai adoré le second parce que le personnage et l'acteur qui joue Leclerc est vraiment habité par
Ah
ce
oui,
rôle, et on
il est
voit Leclerc
magnifique.
tel qu'il était,
Il est magnifique.
hein, tel qu'il
Bon.
était, c'est-à-dire un homme qui, avec rien, a réalisé des choses extraordinaires.
Alors, coup de pied
Et
à
puis, et,
suivre,
je, et moi, je me
comme on dit à
Oui.
Biarritz, enfin dans l'équipe de rugby de Biarritz ou de Bayonne. Coup de pied à suivre. Vous êtes d'accord pour que nous nous retrouvions au mois de septembre, mon général?
Avec beaucoup de plaisir.
Oui, parce qu'il y a vraiment bien d'autres sujets que je voudrais aborder avec vous. Hélas, le temps nous manque. Je vous remercie en tous les cas. Je vous souhaite un bel été, un beau mois d'août. Je vous dis donc à bientôt. Et je dis aussi à bientôt à tous nos auditeurs. À mercredi prochain, je serai aussi en direct pour une nouvelle émission Domine Sanctam Facalium.
Vous venez d'entendre les répliques du nouveau conservateur dirigé par Paul-Marie Couteau, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 5 août 2026, de 16h à 17h, et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix fonds de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.